Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Simon Dutin, Julien Beneteau, Fred Le Canu. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Sachez que les GG du sport continuent tout l'été. En juillet et en août, vous retrouverez toutes vos GG préférées. Dans quelques instants, le bras de fer. On parlera du Paris Saint-Germain qui résiste à tout. C'était le cas hier en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs face au Bayern Munich. Le mental des Parisiens est-il finalement le plus impressionnant? 10h30, la punchline des GG. Tout le paddock parle de l'avenir de Max Verstappen, le patron de Mercedes, a allumé la première mèche la semaine dernière. Red Bull a répondu. Le quadruple champion du monde doit-il quitter son écurie? Et puis 11h, on reparlera du Tour de France à travers Netflix. Et oui, le géant américain qui a déjà quitté le Tour. Il n'y aura plus au cœur du peloton. Est-ce que c'est un mal ou un bien pour le vélo? On se posera la question. On va débuter cette deuxième heure avec cette citation de Joseph Roux. Vous allez voir, c'est du Denis Charvet. N'ayons ni la tête dans le cœur, ni le cœur dans la tête.
RMC, le bras de fer GG.
Le Paris Saint-Germain l'attaque sur le côté droit avec Achraf Hakimi qui redonne à Neves le centre du Portugal. La fin de centre, d'abord il va donner à Désiré Doué. Allez, qui peut frapper du gol. Oui. Et le but du Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est plus la bête noire, Manuel Neuer, c'est Désiré Doué. On le sentait un petit peu moins bien dans ce match, Désiré Doué. Mais c'est le monsieur plus du PSG avec ce pied gauche au premier poteau. 1-0.
C'est-à-dire, ils nous ont attaqué avec une force supérieure en nombre.
Combien était-il?
Deux.
Paris Saint-Germain mène 1-0. Le Paris Saint-Germain est à 9 contre 11. Et le Paris Saint-Germain touche la barre à Kini qui rentre dans la surface. Dembélé. Le 2-0. Et tout le peuple parisien qui se réunit autour de son possible ballon d'or. C'est Ousmane Dembélé qui vient faire la différence contre Anthony Taylor, contre les cartons rouges. La revanche est prise face au Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain ira en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs.
Cet adversaire est plus fort que vous.
Même à 9 contre 11, même en difficulté, les Parisiens sont sortis du piège Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. C'était à vivre hier sur RMC, sur notre radio digitale. Une victoire 2-0. Et voilà les Parisiens en quart de finale, en demi-finale face au Real Madrid de Kylian Mbappé. Depuis plusieurs semaines, vous le savez, évidemment, le PSG marche sur l'eau. Son équipe, son jeu, ses jeunes, son aisance technique, son acharnement défensif sont régulièrement mis en avant. Mais peu le mental hors norme des joueurs. Le mental des Parisiens est-il finalement le plus impressionnant? Dans le coin gauche, la team Oui, représentée par Fred Le Canu et David Douillet. Évidemment, les judokas sont ensemble. Dans le coin droit, ça va saigner. La team Non, Simon Dutin, Julien Beneteau. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial à Atlanta, Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut les GG, salut à tous.
Je le disais, peu importe les vents contraires, à la fin, c'est toujours Paris qui gagne.
Oui, le champion d'Europe semble plus que jamais insubmersible, un état d'esprit irréprochable, salué après le match par l'entraîneur Luis Enrique.
Je pense que c'est une équipe qui a de la résilience et comme notre supporters, ils sont de la résilience aussi parce que n'importe les résultats, notre supporters aide l'équipe en tout moment et je pense que nous sommes une équipe qui est prête pour faire la compétition en tout moment et n'importe quel que soit les résultats.
Contre le Bayern Munich, le PSG a souffert seulement 45% de possession de balles, 13 tirs concédés, dont 5 cadrés, mais le PSG s'en est remis à ses attaquants stars, comme Désiré Doué, satisfait.
Toujours le collectif qui gagnera à la fin. Le coach fait ses choix. Il aurait pu me sortir moi, il aurait pu sortir Kouara aussi, mais voilà, il fait ses choix. Bradley nous a énormément aidé sur la première partie de match. Il a fait un énorme match aussi de son côté. Mais voilà, j'ai essayé d'apporter au mieux personnellement à l'équipe, essayer d'être performant aussi sur le plan défensif parce qu'aujourd'hui c'était très important de faire les efforts ensemble, d'être soudés. Et je ramène ce but à l'équipe et c'est quelque chose de top.
Paris aura décidément tout vécu hier contre le Bayern Munich avec 2 cartons rouges pour Willian Pacho et Lucas Hernandez. Pas de quoi perturber le capitaine Marquinhos.
Au moment des cartons rouges, je regarde mes coéquipiers et je le vois comme tout le monde était vraiment excité pour défendre tous ensemble. Il y avait un qui parlait avec l'autre qui parlait avec l'autre. On disait, on défend, on va pas prendre des buts. Et ce match, c'est à nous, on va tout défendre vraiment fort jusqu'au bout. Même le coach, il travaille ça à l'entraînement. Des fois, il y a des fautes, des fois, il y a pas de fautes. Et lui, il fait vraiment des fois, il donne pas faute sur des fautes qui a été pour travailler aussi leur mental à l'entraînement pour qu'on puisse arriver au match et quand il y a des choses qui c'est pas pour nous, même si on pense que c'est pas comme ça, on va être prêt quand même mentalement pour continuer dans le match.
Paris file en demi-finale à New York avec un groupe diminué et usé physiquement, mais avec le sentiment d'avoir plus que jamais une bonne étoile au-dessus de sa tête.
Et ce sera mercredi prochain, mercredi soir à 21h face au Real Madrid. Merci beaucoup Arthur Perrault. Toutes les dernières informations Paris Saint-Germain sont à retrouver sur rmcsport.fr. Le mental des Parisiens est-il finalement le plus impressionnant? Je suis assez étonné. Parce qu'il n'y a pas de débat pour vous les auditeurs. On vous a posé cette question sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Vous avez été extrêmement nombreux à nous répondre. Et pour l'instant, c'est oui à 83% les judokas. Vous êtes un peu tranquille. Simon Dutin, Julien Beneteau, il y a du boulot. Simon.
L'avantage dans le sport de haut niveau, c'est qu'on peut mettre tout et n'importe quoi sous le label du mental. Voilà, évidemment, le mental, c'est quoi? Si c'est juste réfléchir, avoir des perceptions cognitives, voir, entendre, se parler, faire bouger ses, tu vois, ses membres. Bon, évidemment, c'est le mental. Le mental, ok, ils sont allés marquer un but à 9 contre 11. Ok, ils étaient 5 dans la surface, à 9 contre 11, c'est remarquable. Mais qu'est-ce qui est impressionnant? Ils sont tombés sur une adversité qui, je pense, n'avait pas été aussi forte, aussi, je sais pas, aussi imposante depuis, je sais pas, je pense Arsenal en Ligue des Champions. C'est-à-dire que hier, ils ont enfin dans cette compétition affronté une grosse équipe qui s'est pas cachée, qui est venue les chercher. Ils ont pas vu le jour en première période. Donc oui, mental, oui, ils ont été opiniâtres, ils ont bien défendu, ils ont su être patients. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est la capacité d'adaptation de tous ces jeunes gens, parce que Dembélé a encore débuté sur le banc. On a vu énormément de permutations. On savait pas si c'était Barcola ou Désiré Doué qui tenaient ce rôle-là. Les deux ont permuté. Ils ont été remarquables dans leur travail de haut but, dans la façon dont ils sont venus chercher les ballons, dont ils l'ont utilisé, soit en une touche, soit en conservation pour permettre aux autres de prendre la profondeur. Ils ont été remarquables. Le plus impressionnant, c'est qu'un Jean Neves continue de performer à ce niveau-là, alors que certains autres joueurs, je parle pas que des joueurs du PSG, semblent un petit peu en vacances, sont un petit peu émoussés. Ils ont été remarquables par, en effet, le match qu'ils ont fait. Je conservais ce niveau d'exigence, moi qui les considérais un petit peu en tournée triomphale post Ligue des Champions. Remarquable parce qu'ils ont toujours cet appétit, et remarquable parce que face à ce Bayern d'hier, il y a beaucoup d'équipes qui auraient perdu. Donc oui, il y a du mental dans tout ça, heureusement que ça joue, mais c'est pas le plus impressionnant, voilà.
OK, Fred Le Cadu.
Ah, je suis pas du tout d'accord avec Simon, j'en suis désolé, mais pour moi la dimension mentale elle est incontournable, elle est évidente. Déjà parce qu'il y a de l'endurance mentale. Tu l'as dit, Simon, ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc déjà de se remobiliser pour cette compétition qui est une compétition inédite et qui franchement est pas si évidente que ça pour nous déjà à la regarder. Ça s'emballe pas des masses. Et eux, ils ont réussi à mettre tout de suite le niveau, à repartir. Enfin, faut imaginer quand même la difficulté, l'engagement. J'allais dire la souffrance, mais physique, parce que tu l'as dit aussi. Ils sont émoussés, ils sont rincés, les gars. Et ils y vont quand même et ils jouent pour la gagne. Donc déjà, moi, je trouve ça extrêmement impressionnant. Et puis c'est cette endurance d'efficacité. Ils sont insubmersibles. Il y a un état d'esprit qui perdure. Il y a une âme dans cette équipe. Et je suis désolé de le dire, mais justement, Simon, tu l'as dit aussi, ils devaient perdre en théorie sur cette équipe parce qu'ils étaient cramés, crevés, et qu'il y a ce supplément d'âme. Il y a quelque chose aussi.
En face aussi,
mais pourquoi ils devaient perdre?
La Ligue des Champions ne doivent pas perdre contre cette équipe.
Alors, écoute-moi, ils sont carbonisés. Toutes les stats le montrent. Le match, normalement, il est perdu. Mais pourquoi? À 9 contre 11, la capacité de revenir.
Il y avait déjà 0. Ouais,
il menait quand même. Non.
Il mène quand même.
Je suis désolé. Julien. Parce que je suis désolé. La capacité de retour sur la situation, c'est vraiment une dimension mentale.
Le mental, tu vois l'entraîneur. Le coup de coude de Lucas Hernandez, tu peux te dire que justement, c'est une défaillance du mental. Il doit jamais faire ce geste, même si le carton rouge.
Non, mais là, tu parles de lucidité.
Tu ne parles pas du gaz qu'ils ont réussi à mettre.
Tu parles de lucidité. L'entraîneur, il a dit le mot qui est le plus important. Le mot le plus important, c'est la résilience. Ils ont rien lâché, ils se sont battus comme des chiens jusqu'au bout, et il y a plein d'équipes qui auraient lâché parce que justement ils sont déjà vainqueurs de la Ligue des Champions. La capacité de revenir à 9 contre 11, à Kimi qui fait en bordure là-bas, à la droite, pour revenir sur le centre, c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire parce que...
C'est les efforts physiques, ça.
Et les efforts physiques qui sont liés à quoi? À la volonté de le faire.
Oui, mais c'est ce que
ils sont cramés, les mecs.
Tu peux mettre tous le label du mental.
Non, c'est l'engagement de... Non, je suis pas d'accord.
Le mental des Parisiens est-il le plus impressionnant? Pourquoi ils sont forts? On ne dit pas qu'ils sont pas forts mentalement. Pourquoi ils sont forts mentalement? parce que c'est leur fond de jeu et leur collectif qui fait qu'ils sont très très forts, voilà, et que ça leur donne une force. C'est ça, le plus important.
T'es d'accord avec nous?
C'est ça le, non.
T'es d'accord avec nous?
Non. Je suis d'accord sur le fait qu'ils sont très forts mentalement. Il y a aucun doute là-dessus.
Voilà.
Mais c'est pas ça la question.
C'est la question.
C'est ça qui m'a impressionné hier.
Le plus impressionnant, c'est quoi sur ce PSG, 2024-2025? C'est ça le fond de la question, de Luis Enrique. Mais c'est la capacité à faire les efforts physiques ensemble, c'est le collectif de jouer l'un pour l'autre. C'est le
fond
de jeu.
Ça
repose sur une compréhension de la tactique que veut mettre Patrick.
Non, Julien.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Julien.
C'est le mental. C'est le mental au moment. C'est, ils ont gagné la Ligue des Champions. C'est pas avec leur mental, hein. C'est avec leur football, hein, qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Et c'est avec un football intelligent. Et c'est avec un football où ils font la bonne passe au bon moment sur les bons mecs qui sont
passés. Football intelligent, l'intelligence, elle est pas sur quoi, pas sur la tête.
Il y a un mot. Il y a un mot qu'on n'a pas entendu.
Mental.
C'est le plaisir de jouer ensemble. Voilà. Ouais. Et ça, ouais, mais ils l'ont dit hier en défense et tout. Ils avaient du plaisir à jouer ensemble. Ils sont confiants. Et s'il y en a un qui est la source de cette affaire-là, c'est Luis Enrique. C'est Luis Enrique qui a opéré ce changement d'attitude, cette métamorphose du collectif, mais surtout du plaisir d'être sur l'herbe ensemble, d'avoir des crampons, une balle, et de jouer et de s'amuser. Ça, c'est monstrueux. Et ça, c'est du mental. Quand on est capable d'outrepasser des événements aussi importants qu'une finale de Ligue des Champions, aussi important ensuite d'être sur une Coupe du Monde des clubs, etc., etc., aussi important de jouer à 9 contre 11, c'est parce que les types ont cette faculté mentale de conserver l'envie de jouer et le plaisir de jouer. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu, malheureusement, et je trouve que au PSG, la plus grosse qualité qu'ils ont, c'est de garder un esprit guerrier collectif, mais en prenant du plaisir.
Du plaisir, et puis de jouer ensemble et de jouer les uns pour les autres et d'avoir l'engagement. Je te prends un exemple, David. Donnarumma, il lui fracasse la cheville à son adversaire. C'est pas volontaire. Tu le vois. Et la cheville, tu la vois. Hein. Elle est aussi souple que la souffrance du truc. Je veux dire, c'est Donnarumma, il s'effondre. Derrière, il fait le match comme il le fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a des trous dans la raquette parce que tu sais plus trop s'il y va, il y va pas. Le passage où le défenseur, il met le pied au niveau du visage, il va la chercher pour compenser aussi, il s'engage pour compenser le jeu. Alors tu vas me dire, oui, il s'engage techniquement en jetant la jambe, mais c'est dans l'engagement, dans la volonté de faire mentalement, dans la détermination de prendre des risques là pour compenser son gardien qui est abîmé aussi dans sa tête. C'est ça qui est merveilleux dans cette équipe.
En fait, m'expliquer qu'il y a du mental dans la blessure de Moussiala sur le geste très engagé quand même de Donnarumma. Moi, je considère que plus que le mental de Donnarumma, il a du pot que la mi-temps soit sifflée dans les secondes qui viennent, parce que si c'est en plein milieu de la rencontre, je suis pas sûr qu'il termine le match. Moi, je veux bien encore une fois qu'on me dise c'est que du mental, mais
non, c'est pas ce qu'on dit. Quand c'est pas que du mental.
Fait une récupération exceptionnelle, se projette et amène un but, on peut me dire que c'est du mental. Moi, je peux dire que c'est du talent, que c'est de l'engagement, que c'est la qualité d'un joueur, comme un Désiré Doué qui s'est révélé au fur et à mesure de toutes les échéances en Ligue des Champions, un grand joueur de grands matchs. Voilà. Qui a été peut-être un peu moins flamboyant que Barcola, mais qui, au moment où le match n'est pas encore décidé, se révèle décisif et marque encore une fois à des altitudes qui comptent. Bon, mais je heureusement, comme disait Julien, qu'il y a du mental dans cette équipe, mais je veux dire, ça s'est pas joué que au mental.
Les amis, je voudrais reprendre la main juste parce qu'il y a une dimension d'invincible dans cette équipe. Et peu importe ce qui va se passer, et c'est l'une des premières fois où on a senti, allez, je dirais depuis ces 3-4 derniers mois, un PSG vraiment en difficulté, vraiment dans le dur. Et est-ce que ça existe, l'invincibilité? Est-ce qu'on a cette puissance de se sentir invincible en disant de toute façon, il peut rien nous arriver, David?
David, il peut en témoigner.
Oui, et en particulier, dans un collectif comme le foot. C'est-à-dire que quand t'arrives à être un chef d'orchestre comme Luis Enrique et t'arrives à instaurer un état d'esprit entre les joueurs qui dit la chose suivante, vous devez chacun d'entre vous quelque chose. C'est-à-dire que l'engagement d'un tel par rapport à celui de l'autre doit quelque chose parce qu'il s'est engagé à 100%. Et ça sort chaque passe, chaque phase de jeu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand tu as cette puissance, ce ciment qui soude tous les joueurs, dans cet état d'esprit où tu me passes la balle, je te dois quelque chose, je me dois d'aller jusqu'au bout, je me dois, c'est ce que disait Fred par rapport à l'exemple qu'il a donné, je me dois d'aller faire ceci. Là, tu rentres dans le créneau de quelque chose qui est dur, accepté pour l'adversaire. Parce qu'ils sentent que c'est un mur, c'est quelque chose, et donc on commence à voir les prémices de l'invincibilité. Parce qu'il n'y a rien qui peut casser ça. Même dans une grosse difficulté, même quand t'as deux joueurs qui sortent, eh ben, ils sont solides parce que ils sont encore en train de jouer ensemble, il n'y a personne qui se désunit et tout le monde va dans le même sens.
Et David, non, mais si c'est... Oui, mais pour faire écho à ce que tu dis, moi je te connais par cœur et je sais que le point commun qu'on peut faire, un grand champion, c'est pas quand il le croit, c'est quand il le sait. Et aujourd'hui, l'équipe du Paris Saint-Germain, ils savent leur potentiel, ils se connaissent et ils n'ont pas de doute. C'est pour ça qu'il y a une grande dimension mentale. Il n'y a pas de doute dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Même à 9 contre 11, ça continue d'attaquer. Pas à l'agonie, pas pour s'en sortir. Ils sont offensifs. Il y a une endurance de mental, une endurance d'efficacité. Et ça, c'est extrêmement lié. Donc, j'entends ce que dit Simon. C'est pas la seule chose. Tu peux pas décorréler la technique, le physique, le mental. Mais là, dans ce contexte-là, la dimension mentale et l'assurance d'une très grande équipe, c'est ce qui fait la différence.
Les amis, je voudrais qu'on dise un mot tout de même sur ce match qui va arriver mercredi, les retrouvailles entre le PSG et le Real Madrid. Est-ce qu'il faut voir ce match comme ça? Est-ce que, quelque part, le PSG a une revanche sur Mbappé? Ou l'inverse, est-ce qu'Mbappé a une revanche sur le PSG? Est-ce qu'il faut voir ce match-là comme ça? Parce qu'on va en parler pendant 3 jours, ça c'est sûr.
Moi, je pense que, et des deux côtés, ce serait une erreur de voir ce match-là sous ce prisme. Est-ce que le PSG a une revanche à prendre sur Mbappé? Est-ce que Mbappé va vouloir briller à tout prix face au PSG? Non.
Oui. Tu penses pas que...
Non, mais au fond, lui. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il pense que à ça... C'est le meilleur moyen de passer à côté de ce match. C'est de rester concentré sur essayer, voilà. Moi, je pense que pour le Real Madrid, c'est aussi une manière de relancer un nouveau cycle. Il y a Xabi Alonso qui est sur le banc. Il veut vraiment, impulser quelque chose dans cette équipe, bâtir et pourquoi pas commencer son règne. Avec un titre. Donc voilà, après moi
il est plus important pour Mbappé que pour le PSG surtout, ce match.
T'es pas à l'abri que
le PSG leur saison elle est terminée, elle est magnifique la saison.
Évidemment, ils ont gagné la Ligue des Champions sans lui, ils vont être ravis de lui serrer la main en disant salut, comment ça va? Il y a d'autres paramètres. T'es pas à l'abri que déjà que le petit Gonzalo Garcia débute parce que c'est lui qui débute depuis le début. Alors certes Mbappé a eu son petit virus, mais hier il a encore été bon, il a marqué et en termes de
mais Mbappé au niveau aussi.
Oui d'accord, mais Mbappé rentre dans un c'est pas pareil de débuter. Le petit Gonzalo Garcia, il fait des choses très académiques, il joue en remise, il se déplace, il prend la profondeur, il finit les actions. C'est-à-dire que pour l'instant, moi, il joue le Xabi Ball, voilà. Comme tu veux. Donc moi j'attends de voir
Xabi Ball.
Si face à Paris, Xabi Alonso va pas le remettre, et il y aura un autre problème à voir, parce que Pacho exclu, remplacé par Lucas Hernandez exclu, donc tu vas démarrer avec Beraldo a priori. Bon, ça va peut-être poser aussi d'autres problèmes.
David.
Moi, je pense que ça va être très compliqué pour Mbappé pour deux raisons. La première, c'est qu'il va avoir en face de lui une équipe qui lui prouve, qui lui a montré de par ses résultats et de par ce qu'ils sont, que ils ont résolu un problème, et le problème, c'était peut-être lui. Voilà. Et ça, tu peux pas empêcher un mec de penser à ça. Puis deuxième chose, son litige avec le PSG. Et ça va rentrer en Ligue de compte aussi.
Moi si j'étais
face à toi des gens avec qui tu te bats avec contre des avocats, des trucs, des machins, et tu dois, et t'as la pression sportive de délivrer pour ton club qui est le Real, donc qui est un des meilleurs clubs du monde, si ce n'est le meilleur, et face à ton ancienne équipe avec laquelle t'es en litige, un litige profond d'argent, juridique, etc., et qui en plus te montre, t'as prouvé que depuis là ça fonctionne hyper bien. Ça va être très compliqué, hein. L'équation est compliquée pour lui, hein. Je ne sais pas s'il va être capable de la résoudre.
Ce qui est inédit, moi, si j'étais une petite souris, ce qui est loin d'être évident à faire,
c'est
tu vois, la relation entre les joueurs du Paris Saint-Germain et Mbappé. Parce que tu as toujours eu un conflit sportif, tu as toujours eu deux équipes qui s'affrontent, et tu as déjà joué l'ancien coéquipier avant, voilà, et là tu te retrouves, tu dois jouer. Mais là, ce qui est inédit quand même, c'est qu'Mbappé, il est en opposition... législative, ou comment on dit, légale plutôt, enfin bref, c'est la guerre, au niveau du Paris Saint-Germain. Et je me dis Hakimi, je me dis Dembélé, comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont le prendre dans les bras, salut, ça va?
Oh oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Vis-à-vis de l'institution du Paris Saint-Germain.
C'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont se comporter? Tu vois, je sais que par rapport à d'anciens joueurs, quand t'es comme ça en affrontement, il y a la relation amicale universelle, il y a pas de problème. Mais comme là, il y a quand même un conflit qui est beaucoup plus profond, qui est différent. Est-ce qu'il va y avoir des attentes un peu de distance ou pas de la part de la direction, ou est-ce qu'ils vont pouvoir être, tu vois, j'aimerais bien voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils peuvent être encore naturels ou plus du tout?
En tout cas, on a envie de voir ça, évidemment. Ah bah ce oui. match, cette demi-finale de rêve entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, une confrontation qui n'a pas pu avoir lieu en demi-finale de Ligue des Champions, mais qui aura lieu en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Notez bien ce rendez-vous, c'est mercredi soir à 21h et ce sera évidemment à suivre sur RMC et sur notre radio digitale. Alors je vais faire un petit point parce qu'on est parti quand même... C'était le dur hein, pour la team Simon et Julien Beneteau. Est-ce que c'est le mental le plus impressionnant dans cette équipe du Paris Saint-Germain? Nous sommes partis à 83% oui, 17% non. Nous sommes désormais à 84% oui, 16% non.
C'est mon pourcent à moi. Il y en avait qu'un, c'est pas celui de la
classe. Il rigole. Mais bon, heureusement qu'ils sont forts.
C'est pas grave.
Non, mais c'est bien, ils ont c'est réussi à 9 contre 11 à faire 3 passes de suite parce que mentalement ils sont forts. Donc,
Ah, mais en plus, il veut pas comprendre qu'il a tort contre tout le monde. Il est vraiment. Il a pris 84%, il continue.
Ah, parce que les auditeurs ont mal compris la question.
Alors, en plus, tu manques de respect aux auditeurs.
Non, bah,
on met mal.
Bravo.
C'est parce que c'est la question qui a été mal posée. C'est parce que la question qui a été mal posée. Voilà. Il me connaît, le 10. Bien
sûr. Est-ce que Julien Beneteau a suffisamment de mental pour participer au GG? C'est pas sûr.
Pour participer au GG, si, pour gagner une finale.
Oui. Alors, c'est pas vrai.
C'est quoi le plus dur?
C'est de perdre 10. On peut pas perdre 10 fois.
On peut perdre une fois, mais pas 10 fois, Julien. On peut perdre 2 fois, mais pas 10 fois.
Allez,
on va pas tous les faire. Fallait suivre hier, les amis.
Ouais, c'est un vrai.
10h28, on se retrouve dans quelques instants. J'espère que cette question.
Tu vas t'ennuyer les prochains week-ends, mais monstrueux.
Avec vous,
je sais
là.
Pas ce que tu vas faire.
Ah oui,
non, mais tu vas t'ennuyer.
Mais bien sûr.
Tu vas t'ennuyer les week-ends. Ça va être une catastrophe pour toi.
Bien sûr. Bon, j'ai quand même des enfants, mais c'est vrai que dans 1h30, c'est la quille, quoi. Sans vous,
c'est
les
clair.
Amis. D'ailleurs, je vais demander maintenant à chaque fois si cette question convient à Julien. Et si ça lui convient pas, je change, hein, évidemment. Là, dans quelques instants,
exactement.
On fait Max Verstappen doit-il quitter Red Bull? Est-ce que ça va?
Ouais, ça va.
C'est pas mal.
Ça va?
Ouais,
on peut garder?
Ouais.
Bon, on fait ce débat. Alors, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Fred Le Canu, Simon Dutin, Julien Beneteau dans 10 minutes. Eh bien, c'est à vous de jouer, les auditeurs, pour voter pour votre débat préféré. On a eu l'équipe de France féminine, on a eu du Wimbledon, on a du soft power, on a également du ballon d'or avec Hakimi. Vous allez voter sur le compte X et évidemment, on parlera du débat qui a rassemblé le plus de votants. N'hésitez pas, vous avez encore 10 minutes pour voter. Et puis à partir de 11h, on reparlera du Tour de France et le GOAT Christophe Cessieux sera avec nous. Max Verstappen a encore réalisé des miracles hier lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne, sa 4e pole position de la saison. Une performance majuscule dans un contexte assez incertain, des tractations en coulisses. Il y a quelques jours, le patron de Mercedes, Toto Wolff, a parlé et a lancé des hostilités au micro de Canal+.
J'ai toujours dit que le line-up que l'on a est fantastique. Il y a rien que je voudrais changer à ce moment. Mais c'est naturel que, comme chef d'équipe, j'ai la responsabilité aussi d'explorer qu'est-ce que fait un 4 fois champion du monde dans son avenir. À court terme et long terme, une chose ne contraint pas l'autre.
Mais voilà, quand on est Mercedes, on doit s'intéresser à un quadruple champion du monde. On attendait forcément la réponse de Max Verstappen à cette rumeur d'un départ pour Mercedes. Il est arrivé, elle est arrivée, cette réponse, mercredi. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Of course, there are always...
Il y aura toujours des rumeurs. Les gens parlent du futur tout le temps, mais en fin de compte, la seule personne qui décide, c'est moi avec l'équipe. Donc, peu importe ce que je peux lire ou ce que je peux voir, ça n'a pas d'importance car je reste maître de mon destin. Je suis heureux en ce moment, je me sens bien où je suis, c'est le plus important et je n'ai rien à rajouter.
Il n'a rien à rajouter, mais nous avons des choses à rajouter, Max Verstappen. Doit-il quitter Red Bull? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
Fred Le Canu?
Oui.
Vous allez être d'accord ou pas ce matin tous les deux?
Non.
Non, je le sens. David Douillet?
Je sais plus ce que j'ai dit, mais...
mais au fond de toi...
T'as dit l'inverse que toi,
mais au fond de moi, non.
Au fond de toi, non. Julien Beneteau?
Non, pas forcément.
C'est non également. Alors sachez qu'un autre homme s'est invité dans cette danse, c'est le patron de Red Bull, Christian Horner, qui a préféré manier l'humour devant les journalistes.
Avez-vous un plan B si Max s'en va?
Oscar Piastri.
C'est tellement subjectif. Nous sommes concentrés sur nos pilotes actuels. Max a un contrat jusqu'en 2028 et il a clairement indiqué qu'il voulait finir sa carrière dans une Red Bull. Du début à la fin, ça serait unique. C'est là où nous en sommes. On ignore l'agitation et on se concentre sur les choses que l'on doit améliorer.
Max Verstappen doit-il quitter Red Bull? Évidemment, vous réagissez au 32-16. Vous venez dans cette émission. Pourquoi oui, Fred Le Canut?
Pourquoi oui? Parce que Mercedes le veut et que ça serait une fin de carrière extraordinaire avec Mercedes.
Une fin de carrière à 27 ans?
Oui. Une fin de carrière à 27 ans. Pas maintenant tout de suite, une fin de carrière à venir avec Mercedes. Et moi, je pense que justement, finir sa carrière à Mercedes, je reformule si tu veux, Julien, puisque j'ai pas été très clair a priori, finir sa carrière avec Mercedes, ça serait quelque chose de grand. 2028, pour ça, il suffit juste de mettre 130 millions d'euros sur la table pour Mercedes, donc c'est qu'une question d'argent. Je pense que Mercedes, s'ils ouvrent le débat, c'est qu'ils savent très bien qu'ils peuvent les mettre. Je pense aussi que c'est un garçon qui, justement, à 27 ans, est déjà dans sa tête un peu en fin de carrière, parce que je te rappelle qu'il a une petite fille, et que quand t'es pilote, et que t'as une petite, tu décroches un peu, parce que justement, le mental, ce dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est quelque chose de fondamental, la confiance en soi, et je pense que c'est compliqué. Donc autant prendre le cash, autant aller Mercedes, les 130 millions, négocier une très belle sortie avec une très belle visibilité et finir sa carrière là-bas et surtout remplir le coffre-fort. C'est ce que je lui conseille.
La réponse de
Mercedes, ils vont pas prendre Verstappen pour lui donner une retraite dorée. Pourquoi moi j'ai dit non? Parce que Verstappen, il est 4 fois champion du monde avec Red Bull, que sa carrière et qu'il est estampillé Red Bull, que sa carrière a été faite et construite avec Red Bull. Je pense qu'avec Christian Horner, il y a quand même un petit peu de la friture sur la ligne. Mais,
ah oui, depuis plusieurs mois. Hein.
Mais qu'avec le grand patron, Helmut Marko, Helmut Marko ne jure que par Verstappen. On le voit année après année, c'est que le deuxième baquet, de toute façon, ils peuvent mettre qui que ce soit, il n'y arrive pas parce que tout est fait pour Max Verstappen. Il ne retrouvera jamais ça dans aucune autre équipe écurie, que ce soit chez Mercedes, chez Ferrari un jour ou chez Aston Martin. Attention à Aston Martin qui a beaucoup d'argent et qui vont essayer de l'avoir. Mais pour moi, oui, il a pas grand chose à gagner à essayer d'aller chez Mercedes. Est-ce que avec la nouvelle réglementation, en fait, ce qu'on sait pas, c'est, je pense que le problème, c'est pas une question d'argent.
C'est une question de compétitivité.
Bien sûr.
Mais là, pour la première fois, certainement cette saison, il est à une soixantaine de points des McLaren.
Le truc, c'est que si on n'est pas à l'intérieur du paddock et on n'y est pas, et voilà, c'est compliqué de savoir les pilotes et leurs entourages. Ils savent ce qui se passe qui va partir où parmi les ingénieurs, parmi les mécaniciens, et il y a une nouvelle réglementation qui va être mise en place en 2026, et donc justement les pilotes avec ces nouvelles réglementations sont en train de réfléchir pour essayer de prendre des risques ou pas pour être compétitifs. Et Verstappen, s'il part chez Mercedes, c'est pas pour une retraite dorée, c'est parce qu'il estime que Red Bull n'arrivera pas à prendre le retard sur McLaren et avoir une voiture compétitive, et que malgré le nouveau règlement, ils n'y arriveront pas, ils ne pourront pas être champion du monde. Et qui se dit que peut-être Mercedes va prendre le bon virage à ce moment-là. Mais pour moi,
Donc on dit
non,
pas la même chose.
Non, parce que pour moi, il doit quand même tenter de rester chez Red Bull, parce qu'il a été quand même 4 fois champion du monde et qu'il a quand même un gage de compétitivité, même si cette année ils sont un petit peu en retrait. Et surtout, le traitement qu'il a chez Red Bull, il l'aura nulle part ailleurs.
Ok, David Douillet.
Moi, très, très franchement, avant la séance d'essai d'hier, d'essai qualificatif, j'étais plutôt sur il faut qu'il aille voir ailleurs. Parce que Red Bull, tout au long de l'année, ils nous ont montré qu'effectivement, ils avaient du mal à adapter leur voiture. D'ailleurs, la voiture n'est conduisible que par Verstappen, et Tsunoda nous l'a prouvé, ainsi que le Mexicain aussi avant lui, et Lawson. Et donc, je me dis, en fait, Verstappen, c'est un pur compétiteur. Voilà, il lâche jamais rien. Il est capable de commettre des faits de piste, des faits de course incroyables parce que c'est un mort de faim. Il a beau être 4 fois champion du monde, il a toujours aussi faim. Et là où je suis pas d'accord avec toi, Fred, c'est que petite fille ou pas petite fille, c'est un compétiteur né. Il a ça dans les tripes et il ira jusqu'au bout. Ce qu'il cherche aujourd'hui, c'est effectivement la meilleure écurie. C'est l'écurie qui va lui proposer la meilleure voiture pour reconquérir son titre qu'il va perdre cette année. Bon, c'est simple. Et c'est pas une question d'argent. Je pense que une des écuries sur le dans le paddock qui est capable de tout, et les essais qualificatifs d'hier nous l'ont prouvé, c'est Red Bull. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il reste dans l'écurie qui est en capacité aujourd'hui de réagir au plus vite et de formater un package technique dans la future voiture très performant. Et Red Bull a cette capacité-là. Ils l'ont prouvé dans le passé et ils l'ont prouvé hier. Hier, sans rentrer dans les détails, mais ils ont fait des choix majeurs pour que la voiture aille le plus rapidement possible. C'est-à-dire que on va parler d'aileron. L'aileron arrière n'avait rien à voir avec tous les autres ailerons du paddock. Ils avaient un aileron plat pour gagner en vitesse de pointe dans les lignes droites. À Silverstone, c'est un des points forts de ce circuit. Et Verstappen, avec une voiture qui tourne moins bien, mais qui va plus vite, a été capable d'écraser tout le monde et de faire la pole. Voilà, c'est cette réactivité qu'ils peuvent avoir en termes techniques. Je pense qu'aujourd'hui, dans tout le paddock, il n'y a que Red Bull qui est capable de lui donner. Et c'est une des raisons pour lesquelles, vraisemblablement, il restera chez eux.
Ok, Simon ?
Moi, je pense qu'il n'a pas intérêt à partir parce que je reprends des éléments que Julien a donnés. Il est la figure de proue et que ce soit au niveau du marketing, du storytelling, mais il est chez lui, il a déjà gagné 4 titres, tout l'environnement technique, toutes les améliorations aérodynamiques sont pensées pour lui. David l'a souligné, cette voiture, il n'y a que lui qui sait la conduire, tu vois tous ses coéquipiers, donc là cette année elle est adaptée à son petit à son petit amour du freinage tardif, voilà, on a stabilisé l'arrière parce qu'il l'a demandé. Tout ça, il faut recréer une alchimie avec un environnement technique quand tu changes d'écurie. Il est le roi chez Red Bull. Pourquoi deviendrait-il juste un prince ailleurs? Il faut se souvenir des exemples de Sébastien Vettel qui lui aussi était quadruple champion du monde. Il a quitté Red Bull, ça n'a jamais marché chez Ferrari. Ricciardo, ça marchait pas mal chez Red Bull. C'est devenu un pilote anonyme ailleurs. Un petit peu plus tôt, il y avait eu Alonso qui avait quitté Renault pour Ferrari, pour McLaren, ça a pas marché. Il est arrivé, il s'est pris le bec avec Hamilton, il s'est pris le bec avec Ron Dennis. Quand tu connais le...
Donc il faut toujours rester à la maison, c'est ce que tu veux nous dire.
Je considère que à part pour aller chez Ferrari, qui est le temple, la cathédrale, tu vois, le truc qui te donne vraiment la légende en plus, tu n'as aucun intérêt. On sait qu'en plus, Verstappen, c'est une mèche courte, il va arriver. Soit il va foutre le bazar dans sa nouvelle équipe, soit ça peut très mal se passer. En plus, je crois que Julien en a parlé tout à l'heure, il y a ces changements de règlement. Red Bull va développer avec Ford, je crois, je veux pas dire de bêtises, son propre moteur. Donc il y a, je sais pas, un rôle à jouer là-dedans en étant voilà le pilote qui va incarner le succès de Red Bull qui construit le 15e étage de sa fusée. Je vois pas quel serait son intérêt, si ce n'est de prendre le risque qu'on lui dise ah oui c'est la Red Bull, elle avance plus, ça y est, donc t'es allé chercher ton 5e titre dans une écurie.
Ouais, mais souvent on dit que on voit les grands pilotes quand ils savent s'adapter à une autre écurie, quand ils savent bouger. On l'a vu avec Schumacher, on l'a vu avec d'autres évidemment par le passé.
Ferrari, hein.
Et Mercedes, est-ce qu'ils peuvent se permettre de garder George Russell comme pilote numéro 1 quand on s'appelle Mercedes, quand on a eu Lewis Hamilton?
Russell, il était meilleur qu'Hamilton avec la même voiture l'an dernier.
Ça dépend de la voiture.
Moi, je trouve que pour revenir sur ce que tu dis, Simon, là, je trouve que le statu quo, là, et les sonores qu'on a eus, ils identifient justement tout ce que vous dites, c'est-à-dire l'incertitude. T'as Mercedes qui ouvre la porte, t'as le pilote qui dit, je suis maître de mon destin, ouais. Et t'as Red Bull qui dit, il va rester chez nous. Ça veut dire que, et j'ai bien écouté, Julien, ce que t'as dit, c'est qu'il y a plein de paramètres qui sont en cours d'évolution, et qu'en fait, on sait pas, et eux-mêmes ne savent pas. Je pense que c'est ça, c'est que en fait la porte est ouverte. Mercedes dit nous on est prêt à aller chercher. Si. Le pilote dit attends un peu, j'attends de voir, mais en disant je suis maître de mon destin, ça veut dire je ne dis pas non.
Bien sûr.
Et derrière Red Bull fait attends, comme Simon je t'entends aussi de dire il y a des choses qui vont arriver, il y a Ford et tout, mais ça veut pas dire qu'il part.
La vérité, on serait là tous à la place de Verstappen. Moi, je cherche qu'une chose aujourd'hui, c'est à enquêter sur quelle est l'écurie qui va délivrer la meilleure bagnole pour 2026. Il y a que ça qui m'intéresserait. Et donc, ça doit espionner dans tous les sens, ça doit parler dans tous les sens, ça doit communiquer avec les ingénieurs, ça doit fuiter de partout. Et le jeu, c'est de savoir. Ouais, c'est ça, c'est de savoir où va être la perle rare, comme les McLaren cette année. tu vois.
En sachant que McLaren et Ferrari, c'est bloqué. Ils ont leur duo de pilotes même pour l'année prochaine. Et que les écuries top qui peuvent revenir sur le devant de la scène, c'est Red Bull, Mercedes et Aston Martin. Pourquoi je dis Aston Martin ? Parce qu'en fait, il y a l'ingénieur qui est parti l'année dernière de Red Bull, Adrian Newey, avec qui Verstappen a gagné. Et Aston Martin lui a fait un pont d'or, il est parti là-bas. Et ils savent que c'est le meilleur. Dans les années 90, c'est lui qui a dessiné la Williams. Et dans les années 2000, il a fait gagner, je sais plus quelle écurie, là, il a fait gagner Red Bull. Et Verstappen est proche de lui. Et donc, Aston Martin est prêt à mettre beaucoup de cash. Donc, peut-être que Verstappen, comme dit David, il a envie de gagner. Donc il reste chez Red Bull, il se dit qu'est-ce qui se passe chez Red Bull, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, il regarde et qu'est-ce qui se passe chez Mercedes, pourquoi il serait meilleur Mercedes l'année prochaine que cette année, et l'option Aston Martin avec cet ingénieur qui sait délivrer les voitures mieux que personne.
Toutes les informations Formule 1, c'est à retrouver dans Paddock sur toutes les différentes applications de téléchargement Paddock avec Nicolas Paolorsi. Et sinon, à suivre sur RMC aujourd'hui à partir de 16h, le Grand Prix de Grande-Bretagne avec donc Max Verstappen en pole position. On se retrouve dans quelques instants pour savoir qui a gagné. Ah, les filles, l'euro féminin,
du foot,
le grand coup des Françaises. Bravo Simon Dutin, on en parle dans quelques instants, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49 de retour dans les grandes gueules du sport avec David Douillet, Julien Beneteau, Fred Le Canu, Simon Dutin. À partir de 11h, on retrouvera le GO de Christophe Cessu autour du Tour de France. Évidemment, on parlera de Netflix et de la grande boucle. C'est terminé après 3 saisons. Mais attention, le suspense tout de suite est intenable.
RMC. Les GG contre-attaque.
4 propositions de débat ce matin. Et il y a des surprises partout. Alors là, vraiment, Julien Beneteau est dernier avec 20%. Est-ce que vous préférez Djoko ou Sinner en finale face à Alcaraz?
Julien, bravo.
Dernière place, 20% tout de même, c'est pas mal. Non, mais
c'est pas mal. Salut Julien. Je sais pas quoi dire, je suis affligé.
Tu sais quoi? On va jouer avec la virgule parce que là, c'est très important pour ce qui se passe. 20,4%.
Ouais.
Tu prends?
Bah, j'achète.
Ok.
C'est pas mal, le problème c'est de finir derrière David, quoi.
David Douillet avec son débat philosophique sur les investissements du Moyen-Orient. 22,7%, c'est une médaille de bronze comme à Barcelone pour David Douillet. Bravo mon cher David, et pardonne-moi, je pensais que ça ferait 8%. Eh bien pas du tout, tu as convaincu beaucoup d'auditeurs dans cette émission. Et alors
ouais,
là,
c'est déjà pas mal.
Alors là,
c'est
la première fois, les copains, c'est la première fois que ça arrive dans cette émission. Vraiment, c'est la première fois. Je pensais que Simon allait gagner avec sa victoire de l'équipe de France féminine. Et puis Hakimi est arrivé et son ballon d'or comme ça de Fred Le Canu.
Bah voilà.
29,5% pour les deux.
Oh. Sois pas jaloux, David, t'as gagné.
Vous
la
savez ce qu'on peut faire,
David, tu perdras la deuxième.
Vous savez ce qu'on peut faire, vous pouvez parler en même temps de votre sujet dans votre micro. Et puis voilà, comme ça vous faites tous les deux votre sujet. Qu'est-ce que je fais? Alors c'est à moi de trancher, les amis.
Non, c'est... mais je laisse la victoire à Fred.
Ce que je vais faire, c'est que je vais faire très court et je vais faire une ouverture pour la suite pour les filles. Est-ce que tu veux que je fasse ça?
C'est Simon qui vient de repasser à 30%, donc c'est Simon qui gagne avec la victoire de notre équipe de France.
La vie ne veut pas que je gagne. J'ai déjà perdu sur Douillet, sur le gong et maintenant sur Simon.
Non, c'est pas, sur le gong, c'est pas vrai. Non, déjà, pour
t'as
commencer.
Perdu au bout d'une minute. Allez, Simon Dutin, la victoire des Bleus hier, assez sensationnelle, 2-1 face à l'Angleterre.
Oui, ma victoire, tu veux dire, avec la victoire des Bleus d'hier. Pour ta dernière, évidemment, j'ai fait un petit effort. Oui, hier, on s'interrogeait sur le relatif manque d'intérêt médiatique populaire pour l'Euro et les Bleus de l'équipe de France féminine de foot. Hier, elles ont battu les championnes d'Europe en titre 2-1. Ça aurait pu faire 2-0. Elles ont réussi à se faire peur en fin de match. On a suffisamment parler des choix du nouveau sélectionneur, de laisser le Sommer, Renard et Dali en dehors du groupe qui l'emmenait. Alors ça a beaucoup fait réagir. Du coup, on parlait pas trop de leur chance de performer dans ce tournoi. Et bon, elles ont réalisé une belle partie hier avec un football séduisant. On a vu beaucoup de combinaisons, de redoublements de passes, de jeux en triangle. Bon, elles sont bien lancées. Il leur reste à éventuellement battre le Pays de Galles pour s'offrir un troisième match un peu plus tranquille face aux Pays-Bas. Donc, je voulais
demander aux auditrices, aux auditeurs et aux copains de l'émission si voilà ce succès un petit peu inattendu, on va pas se le cacher, face aux Anglaises hier, va booster un petit peu leur intérêt pour la suite de cet Euro pour les Bleus de l'équipe de France de foot.
Franchement, j'étais assez circonspect sur la compétition parce que tu l'as rappelé, cette équipe de France sans les cadres, une équipe de France qui nous a souvent déçus en compétition majeure ces dernières années. Je suis pas sûr que ça puisse prendre et une victoire face à l'Angleterre, quand tu l'as rappelé, ce sont les favoris de cette compétition, cette équipe anglaise qui est tenante du titre à cet Euro, ça a fait 2,81 millions sur TF1, 21% de part de marché. C'est plutôt un bon score, même si évidemment aujourd'hui encore on est loin des hommes qui font aller entre 5 et 6 millions pour des matchs standards. Et puis on monte évidemment quand on est sur des demi-finales ou finales de tournois majeurs. Je vous propose d'écouter après la rencontre le nouveau sélectionneur Laurent Bonadei.
Le fait de gagner contre l'Angleterre, qui est tenante du titre et favorite du groupe, c'est un point fort. C'est oui, on marque les esprits quelque part, mais j'ai dit aux joueuses qu'il fallait savourer la victoire ce soir, parce qu'il faut aussi apprécier l'instant présent. C'est important, mais dès demain, on va se remettre au travail, parce qu'on a très peu de temps pour préparer le match de mercredi, et donc bien récupérer et se focaliser sur ce match du Pays de Galles, sans s'enflammer, en gardant les pieds sur terre et en avançant étape par étape.
Pays de Galles, donc mercredi à suivre sur RMC, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose, un frémissement, Fred Le Canut.
Moi, je suis très admiratif du travail du sélectionneur qui, du coup, valide sa performance sur ce match-là aussi, parce que c'était une grande prise de risque. Il y avait les pour, les contre, et c'est d'un point de vue du management, c'est toujours peu évident. Alors, tu prends le cas Kylian Mbappé.
Même dans le groupe, on s'interrogeait, s'interrogeaient sur l'absence de Wendy Renard.
Tu prends Kylian Mbappé, tu vois bien que là, il y a toujours des problématiques sur un joueur unique qui peut créer des tensions, mais même dans un cadre où c'est pas conflictuel. Par exemple, tu vois, la retraite de Karabatic pour le hand, ça a ouvert beaucoup d'espace pour les autres joueurs pour prendre une place qui permet d'exprimer des choses. Et je trouve que les joueuses l'ont fait avec brio, l'ont fait très vite. Et pour moi, c'est une vraie assise. C'est-à-dire que ce match-là, il est hyper important symboliquement aussi sur la prise de confiance. On parlait tout à l'heure du mental. Bah là, mentalement, cette dimension-là, elle permet cette victoire-là d'asseoir quelque chose qui est une fusée pour la suite. Il l'a dit aussi le sélectionneur. Attention, il reste du travail. Il faut pas s'enflammer. Mais la réussite, elle prouve que les décisions étaient bonnes. Ça va mettre de côté toutes ces thématiques de cadre, pas cadre, plus cadre. Ça y est, c'est l'ancien temps. C'est terminé. Et donc là, il y a une vraie destinée vers le titre maintenant. Et il va y avoir un engouement, c'est sûr.
Un engouement. David, tu y crois ?
Oui, j'y crois. Moi, j'aime bien le foot féminin parce que je trouve qu'il y a un engagement qui est beau, qui quelquefois font beaucoup moins de, excusez-moi, je vais peut-être faire bondir des gens, mais beaucoup moins de cinéma que les garçons. Et ça me plaît. Je retrouve une espèce de pureté de l'action sportive. Et donc, je trouve que c'est sur la bonne voie. Après, je vais vous parler d'un truc qui a rien à voir avec le monde du sport, mais il devrait y avoir des personnalités à construire, des histoires à raconter. Et là, je pars sur le côté un petit peu extra sportif qui pourrait attirer encore une autre population et les attacher au sport ensuite. Et je trouve que c'est pas ou peu exploité par la Fédé. C'est dommage parce que aujourd'hui on est dans un monde d'image, on est dans un monde où les gens admirent certaines personnalités, etc., etc. Ouais, et ça, c'est pas exploité. Je trouve que c'est pas assez exploité.
Ok, en tout cas, il faut forcément des vedettes, des têtes de gondole, et on les attend dans cette équipe de France, même si Marie-Antoinette Catoto, qui a marqué hier, par exemple, pourrait faire figure de star dans cette équipe de France. On reparlera des Bleus. Alors, je suis assez surpris parce que pendant le débat, t'es repassé devant Fred Le Canu. Donc, tu vas pouvoir, dans quelques instants, pendant la pub, faire ton débat sur Hakimi et le Ballon d'Or. Bravo pour cette victoire.
Vous êtes dur avec moi aujourd'hui. Allez, ça gagne, mais alors c'est dur à sortir, c'est dur à livrer.
Exactement.
Attends, il a perdu. Il y a un chrono, il y a un temps.
Il a perdu, David, mais il a gagné de le faire pendant la pub.
David, ne sois pas mauvaise foi.
Pendant la pub, ça va.
Mais bien sûr. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le Tour de France. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.